Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la grande distribution qui se gave grâce au bio d'après une enquête de l'UFC Que Choisir. Les marges des grandes surfaces sur le bio sont parfois deux fois plus élevées que sur les produits conventionnels. Et au final, c'est le consommateur qui trinque. Les autres titres, Jérémy.
Un violent incendie hier soir à Créteil, dans le Val-de-Marne. Un mort et plusieurs blessés dans un immeuble tout près de l'hôpital Henri Mondor. Notre reporter Yann Gallic s'est rendu sur place. La rentrée politique, c'est en ce moment, avec différents mots d'ordre, vous allez l'entendre. La concertation d'abord, prônée par Emmanuel Macron. La modestie aussi, chez les Verts, malgré leur score aux européennes. Dans ce journal également, le poumon de la planète qui brûle. L'Amazonie touchée par de nombreux incendies. Le président brésilien accuse des ONG de les avoir déclenchés. Et puis la rentrée littéraire, on va se pencher sur le dernier roman de Karine Thuil, Les choses humaines. Il s'attaque à la zone grise du consentement.
Les invités du 6-9 de l'été à 8h moins le quart, Grand Corps Malade et Mehdi Idir, ils signent un film sur les écrans la semaine prochaine, La vie scolaire, le quotidien d'un collège en Seine-Saint-Denis. 8h20, le grand entretien avec Raphaël Glucksmann, député européen, tête de la liste socialiste place publique lors du scrutin européen. Quelle refondation pour la gauche? Vos questions, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert à votre disposition dès maintenant.
France Inter. Les produits bio que l'on peut trouver en grande surface, ils sont plus chers que les produits conventionnels, ça ce n'est pas une surprise, mais sont-ils encore plus chers que ce qu'ils ne devraient être? En gros, si l'on remplit notre caddie de produits bio, remplissons-nous en même temps les poches de la grande distribution? D'après une étude de l'UFC Que Choisir, certains aliments bio coûtent plus cher en grande surface que dans des magasins spécialisés. Conclusion, la grande distribution profite du bio pour se faire parfois de très grosses marges. Adrien Bossard.
Sur 24 fruits et légumes répertoriés, les marges ne sont pas toutes les mêmes. Là où elles sont les plus importantes entre le conventionnel et le bio, c'est sur les trois produits les plus achetés par les Français, la pomme de terre, la tomate et la pomme.
La grande distribution, quand elle vend une pomme conventionnelle, va prendre un peu moins de 90 centimes de marge.
Alain Bazot, le président de l'UFC Que Choisir.
Mais quand elle vend une pomme qui, elle, sera bio, elle va faire une marge non pas de 90 centimes, mais de près de 2,20 €.
Soit plus du double, une surmarge d'1,30 € au kilo. Pour l'UFC Que Choisir, la grande distribution se gave pour deux raisons. Il y a la demande, plus 36% de produits bio vendus en 3 ans, et les Français acceptent l'idée de payer plus cher pour du bio.
On voit très bien que si la grande distribution a les mêmes méthodes, bien sur les producteurs bio qu'elle a ailleurs, c'est-à-dire qu'elle presse le citron, qu'elle leur demande des prix plus bas, si elle garde la même surmarge, eh bien le consommateur n'en bénéficiera pas. Il faudrait que l'Observatoire des marges et des prix, on le réclame, ait un éclairage très précis pour désigner à la vindicte ceux qui surmargent et de façon éhontée.
D'autant que cette pratique ne participe pas, selon l'association, à l'accès au bio pour tous, quand les grandes surfaces, elles, justifient ces surmarges par des pertes plus importantes en bio, du fait d'une plus petite durée de vie des produits.
Quand la grande distribution se gave sur le dos du bio, dossier complet retrouvé sur notre site franceinter.fr. Ce n'est pas pour développer le bio qu'il a pris cette décision, mais plutôt pour protéger ses administrés. En Bretagne, le maire de la petite commune de Langouette, 600 habitants au nord de Rennes, a pris un arrêté pour interdire les pesticides près des habitations. Un arrêté illégal pour la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La justice doit trancher ce matin dans ce dossier devenu emblématique. On va entendre le maire de Langouette tout à l'heure dans le journal de 8h.
Il est 7h04, Jérémy, un violent incendie hier soir à Créteil dans le Val-de-Marne.
Mais le feu a pris dans un immeuble qui jouxte un hôpital, l'hôpital Henri Mondor. Selon le dernier bilan, une personne est morte et au moins 8 autres ont été blessés. Et Yann Gallic, vous vous êtes rendu sur place et dans cet immeuble touché par l'incendie vit en fait une partie du personnel de l'hôpital de Créteil.
Et c'est dans cette résidence de 10 étages que l'incendie s'est déclaré vers 23h. A priori, le feu aurait pris dans un appartement. Très vite, les flammes se sont propagées dans la cage d'escalier et le long de la façade. Un incendie très violent qui a tué l'une des habitantes de l'immeuble, mais les pompiers ont pu sauver 10 personnes qui étaient coincées sur leur balcon, comme Christophe. Cuisinier à l'hôpital Henri Mondor, il habite au dernier étage et a été alerté par l'odeur des fumées.
On se dit qu'on va mourir à ce moment-là. On panique, on appelle les pompiers, on ouvre la porte, on voit qu'on peut pas sortir par la porte. Donc on passe par le balcon et j'étais avec mon fils de 12 ans et ma femme. Et on est passé de balcon en balcon.
Une centaine de pompiers ont lutté contre le feu pendant plus de 2 heures. 4 d'entre eux ont été blessés. Malgré tout, cet incendie n'a pas perturbé le fonctionnement de l'hôpital, explique Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris.
Une enquête qui est déclenchée dans un immeuble pour lequel on n'a pas d'alerte particulière, qui était un immeuble conforme, pour lequel il y avait une visite de sécurité incendie qui n'avait pas montré d'anomalie. Ce qu'on a fait par mesure de précaution, c'est qu'on a délesté les urgences sur d'autres hôpitaux pour faire en sorte que le service des urgences puisse être entièrement mobilisé pour les victimes à un moment où on ne savait pas quel serait le nombre de victimes. Donc tout ça s'est fait sans aucun préjudice pour la prise en charge des patients.
Les circonstances exactes de l'incendie restent pour l'instant inconnues. Au total, une 50aine de personnes ont dû être évacuées. La ville de Créteil a proposé de reloger tous les sinistrés.
La précision de Yann Gallic pour France Inter. 1 mort et 8 blessés, dernier bilan donc de cet incendie hier à Créteil dans le Val-de-Marne. C'est un vrai marathon diplomatique qui démarre pour Emmanuel Macron. Avant le G7 en fin de semaine, le chef de l'État va recevoir aujourd'hui, à 13h, le Premier ministre britannique Boris Johnson, avec le Brexit évidemment au menu. Ensuite, à 15h, rendez-vous avec le Premier ministre grec Mitsotakis. Pour en finir ce soir, un dîner avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Ses ambitions à l'international, Emmanuel Macron les a d'ailleurs détaillées hier soir devant la presse. Le président en a aussi profité pour afficher son état d'esprit en cette rentrée, Maxence Lambrec.
C'est ce qui s'appelle soigner sa rentrée. Plus de 2h30 d'échanges face à la presse, aux côtés d'un nouveau communicant et à la sortie, pas la moindre phrase polémique. Les gilets jaunes sont passés par là. Le président dit vouloir beaucoup plus de proximité et d'humanité et revient d'ailleurs sur les mutilations et blessures inacceptables des forces de l'ordre comme des manifestants et se soucie de l'état de fatigue des policiers. Il appelle ensuite à plus de concertation avec les Français. Pour la réforme des retraites, on ignore encore quelle forme, quelle ampleur prendra ce dialogue. La réponse ne peut pas venir simplement d'en haut, lance-t-il. Nous devons réussir à innover dans la méthode pour que notre pays comprenne où on l'emmène et soit un acteur de cette transformation. Nouvelle méthode égale nouveau ministre ? Non, pas de remaniement d'ampleur à l'horizon. Si je pensais qu'il fallait réorganiser le gouvernement pour porter cet agenda, je l'aurais fait en avril. On ne règle pas le fond des problèmes avec des changements de case. Emmanuel Macron a l'air déterminé. Ce qu'on pouvait faire à court terme, je crois qu'on l'a fait. Maintenant, il faut réussir à montrer que pour chacun, le sort s'améliore. En même temps donc, sûr de lui et plein de prudence.
Et concernant les forces de l'ordre, en plus des préoccupations sur leur état de fatigue, Emmanuel Macron assure qu'il faut repenser certaines méthodes d'intervention et aller relégitimer si besoin.
La rentrée politique, Jérémy, avec la concertation en mot d'ordre pour l'exécutif, c'est l'heure de la rentrée aussi cette semaine pour la gauche.
Oui, les Verts notamment, ils ouvrent leur université d'été aujourd'hui à Toulouse. Les Verts en position de force depuis leurs résultats aux dernières européennes. Mais le mot d'ordre, au sein du parti, c'est plutôt de la jouer modeste, Laurence Perron.
Modestie, c'est en grosses lettres le titre de l'éditorial qui ouvre cette université d'été des écologistes. Il est signé David Cormand, le secrétaire national du parti, et difficile de ne pas le décrypter comme une adresse amicale éventuellement à Yannick Jadot. La figure de proue du mouvement, enivrée par son score aux dernières européennes, doit éprouver la terre ferme. Un excellent score à ces élections n'est pas une garantie de victoire aux municipales, encore moins à la présidentielle, estime Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts.
Le score des européennes doit servir à l'enracinement de l'écologie, je pense aux municipales, et puis de projeter l'écologie comme véritable alternative à la politique d'Emmanuel Macron qui ne fonctionne pas. Et donc ça implique ambition bien sûr, lucidité et humilité.
Et puis il y a le positionnement politique. Le ni droite ni gauche, revendiqué par Yannick Jadot, fait grincer en interne. Pas de quoi se fouetter, estime toutefois David Cormand, le patron du parti.
Le ni droite ni gauche, c'est une ligne politique qui était celle des Verts au moment où ils ont été créés. Et d'ailleurs, quand on observe les positions des Verts et notre action quand on est élu, on est inspiré par la tradition humaniste, solidaire de ce qu'est la gauche.
À Toulouse, où les Insoumis tiennent aussi leurs amphis d'été, va se jouer ce week-end la bataille de la crédibilité écologique, à défaut de celle de la modestie politique.
Et vous nous parliez à l'instant, Laurence Perron, de l'université d'été des Insoumis, également à Toulouse, avec une absence remarquée, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Il est en Amérique latine en ce moment, Jean-Luc Mélenchon, avec une rencontre prévue dans quelques jours avec Lula, l'ancien président brésilien qui se trouve en prison. Le Brésil et l'écologie, justement, comment ne pas parler du poumon de la planète qui souffre en ce moment, l'Amazonie touchée par un nombre record d'incendies depuis le début de l'année. La vague d'indignation est immense sur les réseaux sociaux avec la déforestation pointée du doigt. Et cela semble bien embêter le président brésilien, Jair Jair Bolsonaro contre-attaque et assure que des ONG sont responsables de ces incendies. Tout ça pour nuire, dit-il, à l'image du Brésil. Thierry Augier est à Sao Paulo pour France Inter.
Les incendies de forêt sont particulièrement fréquents pendant la période sèche en Amazonie. Mais cette année, ils sont beaucoup plus nombreux que d'habitude, presque le double que l'année dernière. Une augmentation qui serait liée, selon les spécialistes de l'environnement, à la déforestation qui elle-même est en franche augmentation. Il s'agirait d'une manière de défricher avant de cultiver la terre. De son côté, le président Bolsonaro dément l'ampleur des dégâts. Il rejette les chiffres, pourtant officiels, de la déforestation. Et maintenant, celui que l'on appelle le capitaine tronçonneuse insinue que ce sont les ONG elles-mêmes qui auraient mis le feu à la forêt pour alimenter un climat de guerre. Alors que l'Allemagne et la Norvège ont suspendu leur coopération avec le Brésil en raison de l'augmentation de la déforestation. Loin de l'Amazonie, les habitants de São Paulo se sont rendus compte de la gravité du problème lorsque la nuit est tombée à 15h en début de semaine en raison de gros nuages noirs en provenance d'Amazonie. São Paulo, Thierry Augier, France Inter.
Et l'agence spatiale brésilienne assure avoir répertorié près de 73 000 incendies depuis le début de l'année dans la forêt amazonienne.
Elle prend à bras le corps les problèmes les plus brûlants de notre société et elle sort l'un des romans les plus attendus de cette rentrée littéraire, Jérémy.
Cette romancière, c'est Karine Thuil dans son nouveau livre Les choses humaines. Elle s'attaque à la zone grise du consentement. Ce livre, vous l'avez trouvé tout simplement vertigineux, Ilana Mor-Youssef.
Karine Thuil n'a pas attendu MeToo pour s'intéresser à la question du consentement. Quand le mouvement est apparu, son roman était déjà bien avancé.
Tout est parti d'un fait divers. En 2016, aux États-Unis, il y avait eu un procès qui opposait un jeune étudiant de Stanford, très brillant, sportif émérite, et une jeune femme qui était présente lors d'une soirée sur le campus. Le juge avait rendu un verdict clément et ça avait engendré une vague d'indignation. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Et j'ai commencé à assister à des procès d'assises pour viol à Paris.
Dans le roman, Alexandre, jeune polytechnicien, fils d'un journaliste star de la télé, est accusé du viol de Mila, issue d'une famille juive orthodoxe. Deux univers s'entrechoquent, deux classes sociales. Karine Thuil restitue l'extrême tension d'un procès d'assises. Elle met à nu les ressorts de nos ambitions, notamment à travers Jean, le journaliste télé qui ne veut pas décrocher.
L'idée de choisir un homme de 70 ans qui serait obsédé par le désir de rester à l'antenne, puisque c'est un journaliste politique qui a une très grosse émission à la télévision. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant et aussi de raconter comment tous ces personnages ont peur finalement de la disqualification sociale. C'est difficile quand on vieillit dans cette société qui est obsédée par la jeunesse, par la performance.
Voilà pourquoi le roman est intitulé Les choses humaines.
Et ce tout dernier livre de Karine Thuil, publié aux éditions Gallimard, il sort aujourd'hui en librairie.
C'était le journal de Jérémy Marié.